Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8 heures. Bonjour Rémi Bossard.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. C'est une page d'histoire qui va s'écrire aujourd'hui. Pour la première fois, un pape va poser les pieds en Mésopotamie, entre le Tigre et l'Euphrate, le berceau du christianisme, dans cette terre que l'on appelle aujourd'hui l'Irak. Et cet événement, Europe 1 va y assister avec vous, Jean-Sébastien Soldaini. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Sébastien, vous êtes sur place en Irak depuis une semaine. Vous êtes allé à la rencontre des chrétiens d'Orient, ces hommes, ces femmes dont on sait qu'ils ont été persécutés par l'État islamique. Aujourd'hui, ils sont revenus sur ces terres que va visiter le pape et ils vivent leur religion au plus proche des origines.
Ce que vous entendez là, c'est le Notre Père en langue syriaque et en araméen, la langue du Christ qu'ils utilisent dans des messes intégralement chantées chaque jour, matin et soir, pour les paroissiens de Saint-Joseph. À Karakoche, ça se passe au sous-sol. Leur église est en train d'être reconstruite juste au-dessus de leur tête. Ils ne font pas ça pour se cacher, ils sont revenus sans aucune peur. Mais le Père Amar admet que la haine imprégnée par Daesh persiste chez certains.
Parfois, vous croisez des gens qui pensent comme autant de l'État islamique. Une fois, nous voulions faire des copies de photos chez un imprimeur et quand il a vu la croix sur les images, il a dit « je ne le ferai pas ». Leur idéologie n'est pas morte.
Malgré ça, ils sont 400 000 chrétiens à vivre ici. 40% des personnes chassées par Daesh seraient revenues dans leur ville d'origine. C'est le choix d'Ouhay pour rester aux sources de sa religion, pour ne pas, dit-il, abandonner le berceau du christianisme.
Je ne crois pas en la façon dont les Européens vivent leur foi. Nous sommes le cœur de la foi. Nous sommes plus conservateurs et mieux connectés à notre religion. En Europe, les églises catholiques sont vides le dimanche. Pas chez nous.
Beaucoup sont revenus à Karakoche, ville 99% chrétienne, moins à Mossoul qui ne compte qu'une centaine de familles.
Mossoul, c'est LA ville symbole des atrocités commises par Daesh. Jean-Sébastien, est-ce que les chrétiens sont encore rejetés dans cette ville ?
Eh bien, il y aurait là encore de mauvais esprits, mais les personnes que j'ai rencontrées souhaitent ardemment le retour des chrétiens. Et ça, dans le quartier même où Abou Bakr al-Baghdadi a proclamé son califat, ce commerçant les attend avec impatience.
Mossoul ne renaîtra complètement qu'avec les chrétiens. Sans eux, cette ville n'est rien. Ils y seront en sécurité. Je leur dis donc, revenez, on se relèvera ensemble. Aujourd'hui, notre activité ne tourne qu'à 40%.
Le maire de la ville lance le même appel. Mossoul n'est pas un endroit réservé à l'islam, a-t-il dit. Il y a un vrai besoin, vous l'avez entendu, aussi pour des raisons économiques.
Et Jean-Sébastien, on imagine que ces chrétiens d'Irak attendent avec une grande impatience de voir arriver le pape. Qu'est-ce qu'ils attendent de cette visite ?
Il y a une attente spirituelle, évidemment, les conforter dans leur foi, dans leur choix de revenir sur place, mais pas seulement. Issa espère que le pape vient aussi pour rappeler certaines choses aux dirigeants du pays.
Le pape François en Irak, c'est un signal à notre gouvernement. Ça veut dire prenez soin de nous. Avec cette visite, on va s'intéresser à nous parce que quelqu'un d'important, le Saint-Père, est derrière nous.
Car leur vrai souci aujourd'hui, ce n'est pas tant l'exercice de leur religion, c'est le manque d'emploi, de formation. Ils ont le sentiment d'avoir fait un sacrifice en rentrant pour relancer le pays sans forcément avoir reçu de reconnaissance pour ça.
Merci Jean-Sébastien Soldaini, vous étiez donc ce matin en Irak pour Europe 1 avant cette visite historique du pape François.
Et retenez bien ce que me disait le frère Olivier Pouquillon depuis l'Irak il y a une quinzaine de minutes. Mossoul avant Daesh pour ses habitants, c'est la diversité, une diversité qui est associée à la prospérité. On va suivre évidemment. Merci encore Jean-Sébastien Soldaini. C'est une arme utilisée pour la première fois et elle fait beaucoup de bruit.
L'Union Européenne a dégainé le blocage de l'exportation de vaccins. Concrètement, ce sont 250 000 doses qui l'on a interdit de quitter le sol italien alors qu'elle devait rejoindre l'Australie. Isabelle Horry, la décision a été prise par Rome avec l'appui de Bruxelles qui voulait frapper fort.
Oui, c'est tout sauf un hasard si c'est contre AstraZeneca. Le géant anglo-suédois met les nerfs des 27 à vif parce qu'il ne tient pas ses engagements. Il devait leur livrer plus de 100 millions de doses au premier trimestre, ça sera seulement 40 et les explications des dirigeants de l'entreprise n'ont pas du tout convaincu. L'Italie a donc décidé de passer aux actes et de bloquer des doses mises en bouteille dans une usine proche de Rome. Une décision que le nouveau Premier ministre Mario Draghi a pris en accord avec la Commission européenne et en tenant ses partenaires, dont la France, au courant. Si nous n'avions pas agi, tout le monde aurait pensé que l'Europe n'a pas de dents, justifie une source européenne. Bruxelles se défend de tentations protectionnistes. Depuis janvier, plus de 170 demandes d'exportation déposées par Pfizer ont, elles, été validées. Nous n'avons pas l'intention de nous en prendre aux entreprises qui, elles, respectent leurs engagements, explique un diplomate. La décision contre AstraZeneca tombe en tout cas à pic. Elle ôte un peu de pression sur les épaules des dirigeants européens, critiqués pour la lenteur de la vaccination sur le continent.
Merci Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles.
En France, la campagne vaccinale doit accélérer. C'est la volonté affichée par le gouvernement.
Vacciner plus pour confiner moins, c'est la philosophie exposée hier par Jean Castex. 23 départements sous surveillance renforcée vont recevoir 135 000 nouvelles doses. Mais un seul sera confiné le week-end, le Pas-de-Calais, à partir de ce soir. Cette stratégie, c'est donc celle du gouvernement, mais c'est aussi et peut-être avant tout celle d'Emmanuel Macron qui tente visiblement de distinguer un horizon à travers la brume de l'épidémie. Jean-Rémy Baudot.
Oui, à son agenda, le Covid tient encore une place prépondérante. Conseil de défense, réunion vaccin, diverses consultations. Pour autant, Emmanuel Macron se projette déjà dans l'après, comme s'il enjambait la fin de la crise. Si les efforts des uns et des autres persistent, on pourra effectivement basculer dans autre chose, se prend à rêver un conseiller à l'Élysée. Voilà pourquoi Emmanuel Macron a installé en début de semaine l'idée d'un retour à la normale en avril. Voilà aussi pourquoi il multiplie les réunions sur la relance, sur les projets plus lointains, comme ce matin quand il recevra le délégué interministériel pour Paris 2024. Le chef de l'État espère faire des JO un outil d'attractivité post-Covid. Le jour où nous aurons endigué le virus, il faudra que nous soyons plus forts, avait confié le président il y a quelques semaines. Il y a une volonté de donner un horizon, confirme son entourage. Emmanuel Macron qui affiche donc des ambitions qui dépassent la simple gestion de crise. Un horizon pour le pays, comme pour lui-même, à 13 mois de la présidentielle.
Merci Jean-Rémy Baudot, le président français qui veut visiblement ménager ses concitoyens, ce qui n'est pas le cas visiblement de son homologue brésilien Jair Bolsonaro, très remonté contre ceux qui osent prendre des mesures pour endiguer l'épidémie.
Chega de frescura et de mimimi.
Arrêtez de vous plaindre et de pleurnicher. Combien de temps allez-vous continuer à pleurer? Où ira le Brésil si nous arrêtons tout? Jair Bolsonaro qui s'en prend au particulier aux maires comme celui de Rio qui ont pris des mesures restrictives alors que le pays vit sa semaine la plus meurtrière depuis le début de la pandémie. Le cap des 260 000 morts a été franchi.
Restez bien sur Europe 1 dans un tout petit instant. Nous allons vous raconter le monde qui change dans la collecte de dons. Les joueurs de jeux vidéo s'associent pour soutenir Médecins du Monde. Et ça peut rapporter très gros. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h10 sur Europe 1, la suite du journal. Rémi Bossaron.
C'était l'image de la nuit des dizaines de milliers d'habitants de Nouvelle-Calédonie, de Nouvelle-Zélande et du Vanuatu qui fuyaient vers l'intérieur des terres après une alerte au tsunami. Plus de peur que de mal pour eux. Finalement, le séisme enregistré près des îles Kermadec dans le Pacifique n'a pas provoqué la vague redoutée et l'alerte a été levée.
Alors que les Restos du Cœur lancent aujourd'hui leur collecte nationale, on en parlait dans le journal de 7h ce matin, une autre collecte d'un nouveau genre va débuter à l'Accor Arena de Paris. Ça s'appelle Speedon.
C'est un marathon caritatif de jeux vidéo. Des joueurs vont se relayer jusqu'à dimanche pendant 55 heures exactement en faveur de Médecins du Monde. Ces joueurs, ce sont des stars sur Internet. La dernière fois qu'ils ont fait ça, ça s'appelait The Event et ils avaient collecté 6 millions d'euros pour Amnesty International. C'est un filon très prometteur pour les associations, Clément Le Saffre.
Oui, à tel point que c'est Médecins du Monde qui est à l'initiative de Speedon. Impressionné par la solidarité de la communauté du jeu vidéo lors du The Event, l'ONG a décidé de monter son propre événement caritatif. Jean-Baptiste Matray est le directeur du développement de Médecins du Monde.
On s'est dit qu'effectivement le marché des streamers permettait de toucher des jeunes, une cible qu'on s'est engagée mais qu'on ne touche pas dans nos communications et dans nos appels à dons. Sur les dons ponctuels, nos donateurs sont plutôt âgés et il est important de les rajeunir.
Médecins du Monde a donc donné carte blanche à Mister MV, suivi par 600 000 personnes sur Twitch. C'est sur cette plateforme prisée par les gamers que 50 000 streamers vont se succéder pour terminer le plus vite possible des jeux vidéo pendant que Mister MV et ses acolytes inciteront les spectateurs à faire des dons.
Les gens pourront donner tout du long, influer un peu sur le parcours du marathon avec des défis spéciaux à lancer aux joueurs. Par exemple, si on atteint 1000 euros après la partie de Pokémon, on passe 10 minutes à montrer les bugs les plus improbables du jeu, etc.
Médecins du Monde espère récolter récolter au moins 100 000 euros lors du Speedon. En cas de succès, l'événement reviendra l'année prochaine avec, si possible, du public.
Merci Clément Le Saffre.
Des amateurs face à des professionnels, c'est un classique de la Coupe de France de foot qui va se jouer ce week-end, mais avec une dimension particulière.
Dimanche vont s'affronter deux équipes séparées non seulement par plusieurs divisions, mais aussi par plusieurs milliers de kilomètres. Angers, club de Ligue 1, va recevoir le club franciscain venu de Martinique. Les Antillais sont déjà arrivés en métropole. Ils sont à Clairefontaine, dans une bulle sanitaire, à l'abri du virus, mais pas à l'abri du froid auquel ils ne sont pas habitués. Pierre Herbulot.
Bonnet, gants et lycra, les joueurs du club franciscain affrontent la douceur des derniers jours comme le pire des hivers.
On essaie de se donner les moyens pour ne pas avoir trop froid, quoi.
Mais on se sent de mieux en mieux, il faisait un peu froid au début, on commence à s'acclimater.
30 degrés sur les terrains de Fort-de-France, 10 sur celui-ci, un choc thermique vite oublié face à la perspective pour Sébastien Lepel, électricien, de jouer un match de foot filmé à la télévision face à une équipe professionnelle.
En Martinique, on dirait que c'est la coupe phare, on va dire, parce que ça nous ouvre des portes vers la métropole pour pouvoir nous montrer, quoi. On a tout à gagner et on n'a rien à perdre, quoi.
Lâche le ballon, Kylian !
Plus de stigmates non plus du décalage horaire sur les visages des joueurs qui travaillent leur remontée de balle. Les installations ultra-modernes de Clairefontaine galvanisent l'équipe de Patrick Cavelan.
Au début, c'était un peu plus difficile parce qu'il fallait s'adapter au temps. Et puis après, lorsqu'on a de telles installations, donc ça ne peut qu'aller pour le mieux. Puis le fait d'avoir les joueurs tous les jours H24, donc c'est intéressant pour nous pour pouvoir travailler serein dans ce match.
Un match déjà historique pour la Martinique. C'est la première fois qu'une équipe de Lille atteint les 16e de finale de la Coupe de France.
Et les 16e de finale de cette Coupe de France, ça commence ce soir, mais il n'y aura pas de choc thermique a priori entre Beauvais et Boulogne-sur-Mer et entre Aubagne et Toulouse.
Il y a des microclimats. Hein.
C'est vrai.
Il y a des petits microclimats. Merci beaucoup Rémi Bossard. C'était le journal de 8h sur Europe 1. Très bon réveil.